Michel Giraud, nous voici pour une seconde fois autour de la table et nous allons parler de futuristes aussi bien que des dadaïstes. Qu'est-ce que le bruitisme de Russolo et quelle est la nature de ses recherches dans le domaine des sons?
Aujourd'hui, l'importance de Russolo comme précurseur de la musique des bruits n'est plus à définir, n'est plus à montrer, et je crois qu'elle est vraiment fondamentale. Il faudrait rappeler que les éditions de l'Âge d'Homme viennent de publier, il y a environ un mois, le manifeste et le dossier sur l'art des bruits de Russolo. Alors, dans ce manifeste du 11 mars 1913, Russolo, qui est un peintre futuriste et un amateur de musique, pense qu'il faut totalement renouveler la musique, c'est-à-dire ne plus s'occuper de son, mais rechercher la richesse des bruits, ce qu'il appellera des bruits-sons. Les sons sont dépassés, les bruits-sons sont beaucoup plus intéressants. Alors, qu'est-ce que les bruits-sons? Alors, il dit lui-même, les moteurs de nos villes industrielles pourront, dans quelques années, être tous savamment entonnés de manière à former de chaque usine un enivrant orchestre de bruit, combiné au gré de notre fantaisie artistique.
Au fond, il s'agit de faire des bruits d'assaut.
C'est cela. Alors, Russolo imagine d'inventer un nouvel appareil, un orgue à bruit, qu'il appelle le Rumor Harmonium, et plus tard le Russolophone. Alors il va donc dès 1913 d'ailleurs, proposer dans toute l'Europe des concerts de bruit avec les bruiteurs qu'il invente. Alors là je cite quelques phrases de Russolo. Ce premier instrument reproduisait le bruit caractéristique du moteur à explosion et pouvait varier de ton sur 2 octaves. Ça c'était le premier bruiteur expérimenté en Italie le 2 juin 1913. Alors, Russolo parle non seulement de la richesse étonnante des machines, mais de la richesse de la ville, des tramways, des voitures, des motos, des foules, de la richesse également non artificielle, naturelle, de la nature, c'est-à-dire la pluie, les cascades, le vent. Donc déjà, on peut dire que Russolo est à l'origine de toutes les recherches contemporaines de musique concrète, de musique de film, d'ambiance sonore, d'environnement sonore, et y compris les recherches actuelles de la poésie sonore.
Russolo est un futuriste. Mais je croyais que les dadaïstes étaient des gens qui critiquaient la machine, ou en tout cas qui se servaient de la machine au fin d'une satire. Alors, Russolo, donc, si je vous ai bien compris, il faut le cantonner dans le monde des futuristes. Ça n'est pas un dadaïste, puisqu'il a l'air de prendre ces machines et les sons qu'elles produisent tout à fait au sérieux.
C'est cela. D'ailleurs, on pourrait citer une des compositions de Russolo, qu'il appelle « Spirale de bruit », les titres sont significatifs, pas du tout satiriques ni ironiques. « Réveil », le premier mouvement, c'est « Réveil de la capitale ». Le deuxième mouvement, c'est « Ondine à la terrasse du casino ». Le troisième mouvement, « Rendez-vous d'auto et d'aéroplane ». Russolo est sérieux. Et il pense sérieusement à cette musique. Bon. Alors que les Dada utilisent ces machines dans un but essentiellement satirique et ironique.
Voilà, j'ai un texte là que vous nous avez apporté de Haussmann qui manifeste bien cet esprit de satire. Au premier étage de la cage, le conducteur prend place sur la moto. Au deuxième, un homme se met devant chacune des machines. Un monsieur en smoking et nœud papillon blanc apparaît devant la cage et dit cérémonieusement « Mesdames et messieurs, nous allons vous montrer en 3 minutes comment fonctionne l'âme. Vous aurez un bref et frappant exemple de votre propre dépense intérieure et de vos efforts. » Alors, on entend un sifflement, et dans un fracas épouvantable, avec des gémissements et des étincelles, le conducteur de la moto démarre à toute vitesse, l'estampeuse piaffe, et bourdonne et gronde, les deux moteurs se démènent follement, le public doit s'apercevoir que toute cette salade est inutile, que tout ce bruit et que toute cette excitation n'a pas le moindre sens. Après 3 minutes, retentit un coup de sifflet à roulette, tout s'arrête, le séchoir se met en action et envoie les 10 000 petits morceaux de papier de l'âme par-dessus le public. Et celui qui n'aura toujours pas compris que l'homme, c'est vraiment ça, rien de plus qu'un non-sens qui tourne à vide, alors celui-là, je le plains. Voilà une satire. Alors, on n'est plus du tout dans l'esprit, n'est-ce pas, de Russolo cette fois avec Haussmann. C'est bien ça.
C'est bien cela. Et particulièrement à Berlin, puisque Haussmann est un des fondateurs du mouvement Dada à Berlin, du club Dada à Berlin, on utilise, on a été influencé par le manifeste L'art des bruits de Russolo, mais on l'utilise d'une manière totalement détournée. Oui. Alors là, il serait peut-être intéressant simplement de citer quelques détails sur deux soirées d'Ada à Berlin, du 24 mai 1919 et du 30 avril 1919. Simplement le programme. Alors nous avons, par exemple, une sorte d'ensemble d'environnement musical fait par Grotz, le fameux dessinateur Grotz, et Walter Mehring. Alors je cite, « C'est le chant de la jungle berlinoise, course de 6 jours, machine à écrire et machine à coudre. » Là, nous pouvons faire...
Un poster de machine à écrire.
Voilà, machine à coudre. Alors, bien sûr, là, évidemment, là, c'est satirique. Comme dans les photomontages, nous voyons des moteurs, des machines à coudre, etc. Là,
c'est la provocation. Dans le domaine de la musique, de ce qui se passe avec les photomontages et les collages dadaïstes dans le domaine graphique, disons.
Voilà. Et d'autre part, c'est une satire de l'utilisation sérieuse, on va dire, de Russolo. Russolo qui parlait justement du concert de casino. Là, nous avons chant de la jungle berlinoise. Ouais. Autre mouvement, Golichev. À cette époque-là, qui est un peintre russe, qui également est un musicien très important, car à la même époque que Schoenberg, il invente la nouvelle musique, la musique sérielle, simultanément à Schoenberg. Et à cette époque-là, il crée la première anti-musique, la première, on peut dire, musique dada à Berlin. Alors là, il y a un texte, une production musicale de Golichev, qui s'appelle « Manœuvre de halètement ».
La trace d'une opinion dadaïste sur Russolo, est-ce qu'il le brocarde quelque part? Est-ce que quelqu'un le...
Non, il ne brocarde pas, disons, directement. Globalement, les dadas estiment, et particulièrement Raoul Hausmann, que le futurisme a une grande importance parce qu'il a accéléré certains processus, mais que malheureusement, ils sont contentés de vanter d'une manière enthousiaste la vie moderne, sans du tout analyser à quoi correspondait justement l'industrialisation, les voitures, etc.
Bon, hein? Mais alors, qu'est-ce que ça a donné, alors, tous ces concerts de bruit Il semble que ça n'est pas eu de lendemain, cette...
Alors, il serait peut-être intéressant de reciter, justement, ici le programme, ou de citer le programme, cette fois, du 30 avril 19. Alors, je cite, « Dada machinal »,« Dada machinal », »,« Poème simultané pour 7 personnes »,« Poème bruitiste », d'Ulsenbeck. Raoul Hausmann récite « Beugle », il faudrait plutôt dire, comme une sirène de pompier, ses « Automobiles d'âme ».« Automobiles d'âme » sont des poèmes phonétiques. Donc c'est une satire également donc de l'âme et de la poésie à travers le beuglement. Donc là, on revoit Russolo. Mais Russolo utilisé d'une manière totalement différente, totalement donc satirique et détournée. Et enfin, Golichev, sa fameuse anti-symphonie en 3 parties. Pour guillotine circulaire musicale. Première partie, pompe provocante. Deuxième partie, cavité buccale chaotique ou l'avion sous-marin. Troisième partie, hyper fa majeur pliable. L'intention satirique est évidente. Alors il faudrait citer, à la même époque, dans le contexte d'Ada, mais qui, disons, existe déjà bien avant d'Ada, la grandeur d'Eric Satie. Parade d'Eric Satie, fait donc en 1917, est un ballet de Jean Cocteau, avec des décors de Picasso, une musique de Satie, et dansé par les ballets russes Diaghilev. Pour la première fois, dans une partition musicale, on inclut des bruits réels de machines à écrire, des roues de loterie, des sirènes de navires, des dynamos, des moteurs d'avion, des revolvers. Et là, je crois que c'est un événement absolument capital dans la musique contemporaine, oui. Car Satie ne se contente pas, comme Russolo, de fabriquer des bruits, d'utiliser des bruits. Il utilise à la fois les bruits et la musique tonale.
Bon, mais précisons, c'est un point historique, précisons que Satie n'en est pas pour autant un dadaïste.
Satie n'est pas un dadaïste, n'est pas un futuriste. Satie le dit lui-même, je suis un individu, je suis Satie, je ne suis à l'origine d'aucun mouvement, je refuse tout mouvement. Mais il s'accorde totalement avec l'ironie fondamentale, évidemment, de Dada. Les réactions ont été très vives, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de noter peut-être aussi la différence entre les réactions du public dans les concerts de Russolo. Russolo et ses amis futuristes, particulièrement en Italie, étaient tellement sérieux que si le public ne voulait pas entendre, si le public criait, il descendait dans la salle et gifler et boxer le public. Alors qu'Eric Satie ou Raoul Hausmann ou Duchamp, etc., dans leur fameuse soirée, n'ont jamais boxé ou giflé le public.
Il se moquait du public. Encore à parler dans cette rubrique où nous sommes là pour le moment de Varèse et de Haussmann.
Varèse dès 1908,
c'est avant Haussmann donc.
Avant Haussmann et par disons simultanément à Satie, un peu après Satie, dès 1908 fait sa fameuse pièce Bourgogne qui est déjà un fameux scandale. Et nous savons en 1931 il fait sa fameuse pièce Ionisation pour 13 batteurs et 2 sirènes. Que dit Varèse ? Ce que je cherche, ce sont de nouveaux moyens techniques qui puissent se prêter à n'importe quelle expression de la pensée et la soutenir, dit-il en 1916 à New York, où il rejoint ses amis Picabia, Marcel Duchamp et Man Ray. Pourrions maintenant affirmer que si Russolo a été, disons, un initiateur, un précurseur, c'est-à-dire maintenant que Satie a le premier, nous reprenons, le premier a inséré le son et le bruit, et Varèse, lui, fait un travail beaucoup plus, disons, complexe, pas plus complexe que Satie, mais disons, il vient juste après Satie, qui sera, disons, à l'origine de tout un courant, toute une recherche de musique, de nouvelle musique aux États-Unis. À partir de John Cage et dans les années 60 et jusqu'à maintenant. Alors justement, Raoul Haussmann non seulement donc fait une satire, d'ailleurs comme tous les dadas, particulièrement Haussmann, de la photographie ou de la peinture, de l'art ou de la musique classique telle qu'elle était définie, mais d'autre part, il propose un nouvel instrument qui dépasse, ce nouvel instrument s'appelle l'optophone, qui dépasserait à la fois la musique et la peinture, qui ne serait plus un instrument spécialisé dans la musique, quelle qu'elle soit, d'ailleurs qu'elle soit de son ou de bruit, mais qui serait à la fois optique et sonore.
Il crée une nouvelle base automatique de la peinture et de la musique, l'octophone. Cet appareil, en forme de machine à écrire, permet de soumettre des minuscules reliefs de forme progressive à un interféromètre, transformant ainsi les différents plastiques dans des formes très variées et colorées. Les réflexions sont alors projetées sur un écran et forment là des jeux lumineux. En même temps, elles passent sur relais photoélectriques qui les transforment en ondes sonores. Les formes changeantes, colorées, se déforment en une musique absolument nouvelle. Un appareil en sens inverse permet de transformer quelque musique que ce soit en forme colorée. L'octophonétique, art créateur automatique, nous donnera la peinture nouvelle. La musique nouvelle et la littérature présentiste nous rendra aptes à déchaîner le vrai imaginaire lié le plus profondément à la réalité, la fonctionnalité. L'ascension de la société et le travail du poète, il mènera ce procès avec tous les moyens de sa capacité de se plonger dans toutes les apparitions qui prennent forme et il chantera de nouveau le grand sens de la vie. Ça me fait penser à ce que sont nos light shows, non ? Ou bien est-ce qu'il y a une différence ?
Oui, il y a une différence.
Ces projections concordantes, ces projections sur un écran, ces projections d'images colorées sur un écran, en même temps qu'est diffusée une musique...
Oui, mais dans les light shows, en général, la musique est une musique tout à fait sirupeuse et, oui, disons, classique,
c'est
et ça, retardée. Et d'autre part, le son ou le mot est totalement absent. Chez Raoul Haussmann, c'est... Oui, il y a quelque chose du light show. Le light show a bien compris ce genre de recherche, mais d'une manière abattardie, pourrait-on dire.
Il semble que... tout ça soit plus ou moins oublié, sauf Parab, bien sûr, et Varèse, qui sont, semble-t-il, les deux hommes qui surnagent de tout ce flot de bruit. C'est bien vrai.
C'est très
vrai. À quoi attribuez-vous, justement, l'oubli dans lequel la musique d'Haussmann et les recherches d'Haussmann sont tombées.
Alors, c'est-à-dire, la réponse n'est peut-être pas très, très compliquée. Raoul Haussmann s'est volontairement isolé. D'autre part, il a fui l'Allemagne en 1933, il est venu en France et il s'est isolé en France, dans la région de Limoges, à Limoges. Alors, Haussmann, donc, commence seulement maintenant à réapparaître. D'autre part, ce qu'il a découvert lui-même était totalement différent des recherches de l'époque. Donc on peut simplement le dire, ça vient du propre itinéraire d'Haussmann, et Haussmann lui-même n'avait pas tellement envie peut-être aussi de se mettre sur la scène, hein, oui. D'une part. Bon, d'autre part, la musique futuriste a eu une fortune exceptionnelle avec la musique concrète de Pierre Schaeffer et Pierre Henry.
Vous dites la musique concrète futuriste de Pierre Schaeffer. Est-ce qu'on peut considérer que la musique concrète est une musique futuriste? Est-ce que
Non, je veux dire que la musique futuriste, c'est-à-dire le bruitisme de Russolo, est la base fondamentale des recherches de Schaeffer et d'Henry dans les années 48-50. Pierre Schaeffer et Pierre-Henry connaissaient évidemment les recherches de Russolo et ils réalisent avec l'électronique de l'époque ces recherches, c'est-à-dire qu'ils fabriquent vraiment des bruits. L'an dernier, Pierre-Henry a rendu hommage à Russolo au Palais de Chaillot, à l'art des bruits. Donc là, il y a un lien très étroit. Russolo est un précurseur qui tente de créer un nouvel instrument, mais il n'a pas à disposition les moyens électroniques, électro-acoustiques que nous possédons depuis les années 50. Et Schaeffer et Henry utilisent et théorisent l'utilisation de ces nouveaux moyens. Donc toute la musique concrète, on peut dire, est vraiment ici liée donc, à cette première recherche futuriste. Alors là, maintenant, il faudrait peut-être distinguer donc, dans les recherches contemporaines la musique concrète d'une autre musique. Il y a une chose qui est beaucoup plus importante dans la recherche musicale contemporaine, qui est similaire, je dis analogue à la critique et à la satire de Dada, c'est ce qu'on appelle le happening musical de Fluxus.
Alors, expliquez-nous en quoi il consiste et comment ça fonctionne, techniquement.
Oui, alors pourquoi nous ne connaissons pas Dada, la musique Dada? Pour une raison très simple, c'est que les soirées Dada étaient déjà des environnements musicaux. Et ils refusaient l'enregistrement. Ça ne les intéressait strictement pas d'enregistrer et de reproduire. Et encore moins de composer des partitions. C'était donc une musique globale qui insérait à la fois le corps, la danse, le théâtre, le son, l'image. Bon, l'image de l'époque, bon, pas l'image, c'était moins des tableaux accrochés. Et avec Fluxus, dans les années donc 60, qui est la conjonction donc d'un courant américain et allemand, à Cologne, essentiellement, que le mouvement Fluxus donc se développe. Et le mouvement Fluxus est fait par des musiciens, ce qui est très intéressant. C'est une critique radicale de la musique concrète et de toutes les musiques de notre époque par des musiciens. Et par des musiciens donc, qui viennent d'une aire géographique très vaste et très différente.
Et Stockhausen, il y a un rapport avec
Très intéressant, c'est que Vostell, qui a créé donc des concerts acoustiques, était dès 54, a visité dès 54, le premier studio électronique d'Europe de Stockhausen à Cologne.
C'est ça.
Plus tard, d'ailleurs, dans ces concerts Fluxus, Stockhausen, Ligeti et Kagel ont collaboré au concert Fluxus. Mais quelle est la différence entre un concert, on va dire Fluxus, et un concert de Kagel? Un concert Fluxus est une critique de la musique, c'est-à-dire ici, et nous fait prendre conscience que la musique, ce n'est pas simplement le son. La musique, ça peut être aussi le silence. La musique, ça peut être le geste. Donc ce n'est pas une musique qui se manifeste par une grande variété électronique. C'est essentiellement une musique mentale. Alors, nous assisterons par exemple à un concert où vous avez donc Peck, je crois, et Vostell, qui scient ensemble un piano. Voilà le concert. Autre concert, l'intronisation des musiciens. Le public est là, ils attendent le concert. Ils attendent le concert une heure. Il n'y a pas de concert. Ils n'assistent qu'à l'intronisation des musiciens, qui rentrent dans la salle, montent sur la scène, prennent leurs instruments, reposent leurs instruments, s'en vont. Mais d'une manière très lente, rituelle. On insiste cette fois donc sur le geste. Il y a eu d'autres expériences de concerts avec le mouvement sans le son. Alors ça, c'est une chose. D'autre part, dans ces happenings qui ne sont pas seulement des happenings musicaux, qui sont des happenings, c'est-à-dire des événements où le public, justement, a une très grande part d'activité. Alors, il y a ici le jeu, donc, par rapport, disons, à Satie, Rousseau, etc. Le public lui-même fait partie du concert. Le public lui-même agit dans ce concert. Mais c'est un concert qui n'est absolument pas programmé comme, disons, un concert de Xenakis, de Stockhausen ou de Kagel. Hein. C'est un concert, ce qu'on pourrait appeler un concert aléatoire. Hein? Il y a une partition, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, il y a une partition qui peut être écrite, mais c'est une partition mentale. Absolument aucune note ne sont décibels. Et ici, le public peut aussi bien crier, parler, jeter des pierres, selon la partition. Alors, il serait très intéressant de citer trois exemples.
De cette musique aléatoire.
Voilà, de cette musique aléatoire.
L'expression musique aléatoire est d'ailleurs très poétique.
Alors là, nous avons trois exemples. D'abord, John Jones, qui crée un concert pour guitare et ventilateur. Alors, le ventilateur à un moteur réglé avec un système de phase qui permet de ralentir ou d'accélérer. Et cet ensemble comprend trois guitares et trois ventilateurs dont les ailerons sont en gomme. Donc il transforme en ventilateur, ce qui fait donc des sons tout à fait spéciaux. D'autre part, Mathiouna, dont on a déjà parlé, qui est le fondateur donc, du terme Fluxus, lui invente une pièce pour six ventilateurs à air pulsé. Mais c'est le ventilateur réel. Ce n'est pas du tout ici, comme chez, on disait Rousselot, un bruiteur, un appareil qui reproduit le bruit du ventilateur, ou comme chez, dans la musique concrète, un triturage électronique qui reproduit ou qui tente de produire un bruit de ventilateur. C'est comme, on peut dire ici, chez Satie ou chez Dada, l'insertion de l'objet trouvé, de l'objet réel. Hein, mais avec également le son de la musique tonale, de la musique classique, qui crée donc une contradiction. Et là, nous retrouvons la véritable source de la musique contemporaine, c'est-à-dire Satie Varèse. Qui refuse de refuser la musique classique, la musique tonale, mais qui, d'autre part aussi, refuse de refuser tous les bruits environnants. Donc, ça nous crée une complexité en harmonique, pourrait-on dire, beaucoup plus riche. D'autre part, c'est Jean de Fuxus refuse également de refuser le théâtre, la parole, les gestes, les actions et les dialogues, avec le public, où les participants jouent ensemble leur partition. Ce n'est plus un public, on ne parle plus de public, on parle de participants. Ce qui n'a rien à voir du tout avec faire participer. Ce sont des gens choisis qui peuvent vivre un happening pendant 6 heures, pendant un jour, 3 jours, 4 jours. Et c'est là l'intérêt justement de ce happening. Et d'autre part, nous parlons maintenant de Mathiounas. Mathiounas invente le premier des concerts de télévision. Il triture les appareils, il les règle différemment et nous avons des bruits de bourdonnement, ce qu'on appelle la neige. Il a créé de très très beaux concerts d'environnement de télévision. Une vingtaine de postes de télévision. Et enfin, le troisième, c'est Wolf Vostell, qui lui vient de la typographie et de la peinture et qui est sans doute un des producteurs acoustiques les plus riches du mouvement Fluxus. En 62, dans un concert Fluxus, il propose au public, aux participants, de casser des ampoules contre une vitrine. C'est un concert d'ampoules contre une vitrine. Alors déjà la farce, l'ironie, et l'ironie en même temps, la destruction de l'ampoule, la destruction est un acte créatif.
Oui, c'est à ça que je reviens et je voudrais que vous insistiez là-dessus. C'est l'attitude de tous ces compositeurs, de tous ces musiciens, puisque vous dites que ce sont des musiciens, et je le crois. À l'égard de la machine, est-ce qu'il continue de manifester, comme les dadaïstes, une espèce de critique? Est-ce qu'il dénonce la machine dans son pouvoir oppressif? Et est-ce qu'ils se sont prononcés là-dessus?
Alors, ils ne dénoncent pas la machine. Ils utilisent le média mécanique, le média électronique, le média électroacoustique, dans un sens mental. Ce n'est pas du tout une proclamation de l'électronique, c'est simplement ici le constat que nous sommes dans un média électronique, nous ne pouvons pas donc nous en passer.
Mais tout de même, il le dévie de son sens.
Ah, il le dévie
de ce concert de télévision.
Voilà. Il le dévie totalement de son sens.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a dans cette déviation une forme de critique, tout de même.
Non, c'est une forme de critique radicale, mais il pense que, simultanément, nous pourrions utiliser ces médias dans un tout autre sens. Dans un sens, non pas du tout de concert, mais dans un sens véritable d'information, de clarification, de prise de conscience. Alors là, je vais vous citer quelques autres faits, mais c'est assez amusant. En 1963, Voskal propose un concert, mais un concert tout à fait particulier, pas dans une salle de concert. Il refuse. Alors, Jean de Fussus n'ont jamais joué dans des salles de concert. Évidemment, il joue dans les garages, il joue dans la rue, il joue n'importe où, surtout pas dans les salles de concert. Alors, il propose donc un concert acoustique sur un terrain d'aviation, et sur un terrain d'aviation militaire. C'est absolument invraisemblable. Alors, c'est un concert de 64, concert d'avion en réaction à Wuppertal, avec trois chasseurs à réaction de l'armée, de l'air, réglés différemment. En 63,
est-ce qu'il restait des traces de tout cela?
Alors, il reste du concert d'avion, je crois qu'il reste une trace. Mais malheureusement, ils ne se souciaient pas tellement d'enregistrer. Oui. Ce qui était pour eux important, c'était l'action. Ce n'était pas du tout, justement, la reproduction de l'action. Alors là, c'est intéressant sur le plan critique dont vous parliez tout à l'heure. C'est s'il ne critique pas directement la machine, il critique toute, on peut dire, la machinerie du théâtre, la machinerie du concert, la machinerie de la machine, etc., qui fait que c'est dévié de la vie. Nous consommons de l'art. Là, ils insistent essentiellement sur l'action. Les individus deviennent des êtres vivants. Et qu'ils inventent eux-mêmes leur propre partition, leur propre concert. N'importe qui peut devenir musicien. N'importe qui est musicien. Il suffit donc d'ouvrir complètement l'imagination. Et dans ce sens-là, ils sont très proches, évidemment, de Dada, avec les moyens actuels. En 63, ils créent une chose très bizarre, un concert dans une gare, non loin d'une gare, à Wuppertal, une locomotive contre une Mercedes. Enfin, en 68, comme hommage à mai 68, à Munich, il propose un concert de pierre contre des vitres, qui sont amplifiées d'une manière absolument effrayante par justement ces nouveaux médias techniques qui s'appellent les amplificateurs. Alors Voskal a énormément travaillé justement dans ce sens-là. Et nous pouvons citer son dernier concert, octobre 75 à Milan. C'est un concert pour 40 portières de voiture, donc l'ironie, la voiture, etc., bon, qui est le média, bon, sur lesquels sont branchés 40 petits moteurs, qui frappent avec leur marteau, donc c'est le pas du fandango, et simultanément, vous avez un bourdon, qui est une scie à disque, et Voskal lui-même joue du violon de temps en temps, violon lui-même déjà recouvert, détourné, d'un énorme quartier de viande rouge, sanguillonnante. Alors c'est dire déjà donc toute la complexité même, donc la moquerie, et en même temps aussi l'apparition d'un nouveau son. Tous les sons sont possibles.
C'était La machine et le merveilleux par Jérôme Peignot avec la collaboration de Michel Giroux.